Merci. Donc, je suis heureux de pouvoir venir parler de ce sujet aujourd'hui avec vous. Pour me présenter quand même un tout petit peu plus, je dirais que je connais bien cette maison puisque j'y étais maître de conférence en sciences de l'éducation pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la formation continue avec les collègues du SUFCO, mais aussi dans le département de sciences de l'éducation, en particulier dans des masters de conception de dispositifs, de systèmes de formation. Et je continue alors à intervenir très ponctuellement en tant qu'enseignant dans un ou deux masters, et surtout avec une activité de chercheur. Je suis associé donc au laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Je crois que c'est ça l'intitulé du laboratoire NIRDEF, hein, qui regroupe différents enseignants, à la fois de Paul Valéry d'ailleurs et de l'université de Montpellier, notamment de l'ESP, qui sont des enseignants-chercheurs en didactique ou en sciences de l'éducation. Alors donc j'ai accepté avec plaisir de venir dialoguer avec vous de l'approche par les compétences dans l'enseignement et dans la formation. Alors ce qui a été convenu, c'est que je parle à peu près trois quarts d'heure d'abord dans un exposé, et ensuite qu'il y ait une discussion à peu près de la même durée dans laquelle j'espère que vous participerez activement. Qu'est-ce que je peux dire en introduction? Je crois que c'est tout. On est un peu d'aller et venu encore, évidemment, parce qu'on a commencé à l'heure, donc on va à peu près toujours le petit quart d'heure là où ça a fini de s'installer. Alors c'est un sujet, l'approche par les compétences d'enseignement et la formation, sur lequel j'ai un peu travaillé ces dernières années, avec une approche d'analyse de dispositifs de formation, et aussi sur cette approche un regard un peu critique, hein, vous verrez que je suis parfois un peu dur avec certaines conceptions du moins, ou certaines utilisations de cette approche dite par les compétences. Alors c'est une approche, une des difficultés de ma situation, c'est que je ne sais pas très bien quel est votre niveau d'information préalable sur ce sujet. Donc je vais à la fois peut-être rappeler des choses qui paraîtront un peu évidentes à certains, et puis peut-être aller pour d'autres un peu vite sur certains aspects. Donc je pense que là, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les garder de côté, de façon à pouvoir qu'on puisse après les aborder dans la discussion. Alors je rentre donc dans l'exposé. Cette approche se traduit notamment par une organisation de la formation, une conception des programmes, des modalités d'évaluation qui sont fondées principalement sur ce qu'on appelle des référentiels de compétences. Elle est très souvent présentée comme susceptible d'améliorer l'efficacité du système éducatif et des dispositifs de formation, notamment de formation professionnelle, d'où des injonctions de la part des autorités pour qu'elles se généralisent, y compris dans l'enseignement du primaire au supérieur, avec des choses comme le socle commun de connaissances et de compétences, le livret personnel de compétences, et pour les étudiants, il y a même, j'ai vu, un portefeuille d'expériences et de compétences. Je ne sais pas si c'est un outil qui est utilisé à Paul Valéry, je ne crois pas, mais il l'est dans plusieurs universités françaises. C'est à la suite de recommandations de l'OCDE, de l'Union européenne et de divers organismes internationaux que cette approche par les compétences, avec ses référentiels, ses socles communs, ses portfolios, etc., a été introduite dans le système éducatif, notamment en application de la loi d'orientation d'avril 2005. Mais il me semble que ceux qui la préconisent ou la mettent en œuvre ignorent parfois l'origine de cette approche dite par les compétences. Tous n'en ont pas la même définition, même si beaucoup partagent ce qu'on pourrait appeler un paradigme commun ou un modèle de la compétence, pour prendre l'expression qui a été popularisée par le sociologue Philippe Zarifian. Donc ce modèle de la compétence qui est à la base de cette conception de la formation. Alors ma conférence aura pour but essentiellement de tenter d'apporter quelques éléments de clarification sur ce sujet, mais aussi de proposer un regard critique sur cette approche par les compétences telle qu'elle est utilisée dans l'enseignement de la formation, et cela à partir d'une série d'études que j'ai menées sur des dispositifs de formation qui reposaient sur ces référentiels de compétences. C'est donc ce que je vais essayer de vous présenter. Donc ma conférence va être organisée en trois parties. Une première partie reviendra sur l'origine de l'approche par les compétences dans l'enseignement et la formation, et sur ce paradigme ou ce modèle de la compétence auquel on peut le rattacher, au moins dans sa forme originelle. La deuxième partie proposera quelques éléments de définition de la notion de compétence, sans nier les difficultés d'ordre méthodologique et épistémologique que pose cette définition ou ces différentes tentatives de définition. Et enfin, la troisième partie présentera l'analyse de quelques dispositifs de formation qui ont été conçus sur la base de cette approche, par les compétences, et par l'analyse des référentiels de compétences et d'autres outils d'évaluation de compétences que ces dispositifs mobilisent. Alors, je ne rentrerai pas beaucoup dans le détail des outils d'évaluation, puisqu'il y aura une autre intervention à ce sujet, mais je l'aborderai quand même un petit peu. Et je terminerai par quelques remarques critiques concernant ce qui me paraît constituer des risques ou des insuffisances dû à certaines caractéristiques de ces dispositifs et par quelques propositions que j'essaierai de faire aussi pour voir comment on peut éviter ou surmonter ou contourner ces difficultés, ce qui devrait permettre d'ouvrir, je pense, nos discussions. Alors, en introduction, quelques remarques préalables, notamment sur la notion même de compétence. Le dictionnaire historique de la langue française nous apprend que ce terme de compétence vient du domaine juridique. Il s'applique d'abord à une instance judiciaire, tel tribunal par exemple est compétent pour juger un certain type de conflit, de délit ou de crime dans un territoire délimité. Ou, pour prendre un autre exemple, un juge d'instruction n'a pas la même compétence qu'un juge d'application des peines. Donc, vous voyez cette origine juridique du terme. Mais dès la fin du XVIIe siècle, et par généralisation, ce terme appliqué à une personne désigne la capacité qui est due au savoir ou à l'expérience d'une personne pour traiter un certain nombre de sujets ou prendre un certain nombre de décisions. C'est le sens qu'a aujourd'hui le terme de compétence dans le langage courant. Un deuxième repère, toujours sur ce terme de compétence, dans le champ de la linguistique, Chomsky, c'était au milieu du XXe siècle, lui a donné un sens spécifique en opposant la compétence et la performance linguistique. Pour cet auteur, s'il y a des enseignants de linguistique parmi vous, peut-être ils vont trouver que je suis un peu schématique, mais je dirais que pour cet auteur, la compétence linguistique est une sorte de grammaire universelle sur laquelle repose la structure profonde de toutes les langues. Alors que la performance linguistique est constituée par les phrases que nous prononçons dans la langue ou les langues que nous avons apprises. Seule la performance est observable, la compétence linguistique ne peut être connue que par l'analyse de la syntaxe des phrases prononcées dans les différentes langues parlées, donc à travers l'analyse des performances, de la performance au sens de Chomsky. Cette opposition entre compétence et performance est une distinction qui me semble importante de garder à l'esprit. Si on l'oublie, il me semble que ça conduit à des confusions qui ont des conséquences à la fois théoriques ou méthodologiques, j'y reviendrai. Dans le champ des sciences de l'éducation, je vais citer un auteur qui s'appelle Dada Halal, qui reprend cette distinction pour opposer d'une part, et je cite, les structures ou fonctions mentales qui expliquent l'action du sujet, c'est-à-dire les compétences, et d'autre part, les comportements observables qui en résultent, les performances. Elle considère que cette distinction est un acquis d'un ensemble de travaux en psychologie du travail, en ergonomie notamment, et elle critique des auteurs. Je citerai Guy Le Botef parmi les auteurs qu'elle critique, à qui elle reproche de négliger cette distinction entre compétences d'un côté et performance de l'autre. Ce qu'on peut retenir, c'est donc qu'une compétence n'est pas directement observable, seules les activités, ce que certains nomment comportement ou performance, le sont, et c'est sur la base de l'observation et de l'analyse de celle-ci qu'on peut inférer l'existence d'une compétence et éventuellement en évaluer l'acquisition. Une deuxième distinction à rappeler, toujours dans ces remarques préliminaires, c'est la différence entre l'usage du terme au singulier, la compétence, et son usage au pluriel, les compétences. La compétence, ou l'adjectif compétent attribué à une personne, c'est un jugement global qui est porté sur sa capacité à exercer effectivement son activité, en particulier son métier. Parler des compétences au pluriel suppose alors de décomposer ce qui fait la capacité d'une personne à agir efficacement en une série de composantes qu'on va appeler des savoirs, des savoir-faire, que cette personne peut ou doit mobiliser dans son activité pour réaliser les tâches qui lui sont ou qui lui seront confiées. Donc après, c'est quelques remarques sur le terme de compétence. J'en viens à une première partie sur la généalogie ou l'origine de cette approche dite par les compétences dans l'enseignement et la formation. Ce que certains nomment aussi méthode pédagogique fondée sur les compétences. À partir des années 80 ou 90, enfin à la fin des années 80, au début des années 90 pour être plus précis, l'usage du terme de compétence s'est largement répandu dans deux domaines. D'une part, celui du management, notamment de la gestion des ressources humaines, où on parle par exemple de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et d'autre part, dans le champ de l'éducation et de la formation, notamment de la formation professionnelle. D'où l'idée qui est développée par certains que cette approche par les compétences de la formation proviendrait du milieu des entreprises et du monde de la gestion. Or, en réalité, dès les années 60 et 70, s'est développé aux USA un courant pédagogique qui se nomme en anglais « Competency-based education », pardon pour l'accent, l'enseignement fondé ou basé sur les compétences. Dans un article de la revue Éducation Permanente, Gilles Tremblay décrit les principales caractéristiques de ce courant pédagogique, dont la proximité avec la pédagogie par objectif, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, la pédagogie par objectif, me semble assez évidente. Je cite les principales caractéristiques qui sont décrites par Tremblay. La première, c'est que le programme d'enseignement est formulé en termes de compétences à acquérir, c'est-à-dire de savoir-faire, en anglais on dit « know-how », plutôt que de connaissances, « knowledge ». La liste de ces compétences étant définie à partir des fonctions ou des tâches que les apprenants auront à réaliser, les objectifs de l'enseignement sont donc formulés en termes d'action ou d'opération. Deuxième caractéristique, les modalités d'évaluation et de certification correspondant à chaque objectif opératoire portent sur les performances, autrement dit des comportements observés, dans des situations de test précisément contrôlées. Troisième caractéristique, une fois testés, les acquis des apprenants sont certifiés de façon à faire apparaître le niveau de maîtrise qu'ils ont atteint par rapport aux compétences visées. C'est tout ça, en tout cas comme ça que c'est défini. Alors, dans un ouvrage traduit en français sous le titre « Pensée et éducation des adultes », hein, le titre original en anglais c'est « Philosophical Foundations of Adult Education », « Philosophical Foundation », donc les fondements philosophiques de l'éducation des adultes, avec deux auteurs qui s'appellent Elias et Myriam. Ils traitent de cette éducation basée sur les compétences dans le chapitre portant sur le courant behavioriste. Hein, ils distinguent toute une série de courants, hein, courants pédagogie active, courant progressiste, courant humaniste, etc. Et l'éducation fondée sur les compétences, donc pour eux, doit être classée dans le courant behavioriste. Ils écrivent notamment que cette approche se caractérise par, je cite, « un programme qui spécifie en termes behavioristes les objectifs à atteindre, les expériences d'apprentissage à entreprendre et le mode d'évaluation des buts prédéterminés ». Ils ajoutent que l'éducation basée sur les compétences suppose que les habiletés mesurables peuvent s'énumérer clairement pour tous les domaines de connaissances. Et ils décrivent ensuite la méthode utilisée pour concevoir un programme pour la formation professionnelle notamment, fondée sur les compétences. Elle commence par une description détaillée de l'emploi, donc des tâches, des activités qu'une personne doit réaliser, doit utiliser dans son travail. Et cette description détaillée de l'emploi sert de fondement à une analyse minutieuse de la tâche, un processus qui divise le travail de base en composantes de plus en plus détaillées. J'évoquais tout à l'heure un paradigme ou un modèle qui serait au fondement de cette conception de la formation. Il est clair que ce paradigme, ce courant appartient au même paradigme que la théorie de l'apprentissage behavioriste. Comme la pédagogie par objectif, elle apparaît aux USA dans les années 60 et se présente comme une solution aux échecs du système scolaire nord-américain qui ont été constatés à cette époque par une série d'études. La réforme qui s'en inspire vise à rationaliser, à rendre plus efficace l'enseignement en définissant plus précisément ses objectifs et ses modalités d'évaluation en termes de compétences. Elle le fait, on peut le signaler, dans un contexte idéologique marqué par le pragmatisme et l'utilitarisme. J'ajoute que le découpage du travail en tâches et opérations élémentaires, qui se traduit ensuite par le découpage des compétences en toute une série, là aussi, d'unités élémentaires, qui serviront à structurer la formation et à définir des modalités d'évaluation, à travers d'une série d'indicateurs de performance, est fondée sur une conception du travail et de la formation qui s'inspire des principes tayloriens de l'OST. En effet, l'idée selon laquelle les activités professionnelles peuvent être exhaustivement décrites par un découpage du travail en tâches et opérations élémentaires, de plus en plus détaillées, jusqu'aux gestes et exécutés, correspond à une façon de penser et d'organiser le travail humain qui est celle du taylorisme et de sa fameuse organisation dite scientifique du travail. À la fin de leur chapitre sur ce courant pédagogique fondé sur les compétences, Elias et Myriam signalent quelques limites ou difficultés que rencontre cette approche. Donc il y a quand même un regard critique déjà qui est posé par ces deux auteurs. Ils précisent que quelques-unes des compétences nécessaires à certains emplois peuvent être difficiles à identifier, et là ils donnent l'exemple de la formation des maîtres. Et il conclut en signalant, je cite, que les critiques reprochent à l'éducation basée sur les compétences un certain caractère déshumanisant. Ils trouvent qu'elle se soucie peu de l'étudiant, qu'elle étouffe la créativité, et ils ajoutent qu'on lui reproche également de fragmenter les programmes en négligeant l'essentiel. Vous conviendrez que ce sont là des critiques assez lourdes, assez sévères. Alors on peut se demander si les programmes d'enseignement et les dispositifs de formation qui sont conçus autour de référentiels de compétences reste marqué par cette origine de la pédagogie fondée sur les compétences, si elles sont fondées sur les mêmes principes. Est-ce qu'on peut leur adresser aussi les mêmes critiques? J'essaierai de répondre à ces questions dans la troisième partie, en examinant les formes que prend aujourd'hui cette approche par les compétences dans quelques dispositifs de formation ou programmes d'enseignement, y compris d'enseignement supérieur. Mais auparavant, je présenterai quelques éléments de définition, quelques attributs, si vous voulez, de la notion, sinon du concept de compétence, qui me semble pouvoir recueillir un accord de la part de ceux qui l'utilisent dans le champ de la formation. Donc, comment essayer de définir la notion de compétence? La difficulté, c'est qu'il y a de très nombreuses définitions de ce terme qui ont été proposées ces dernières années. Mais il me semble que, malgré cette abondance de tentatives de définition, et quelques divergences qu'on peut trouver entre elles, il est possible de repérer quelques points communs à la plupart des définitions qui ont été proposées et qui me semblent pouvoir délimiter le sens de cette notion sans prétendre en élaborer un concept susceptible de recueillir un consensus. On verra dans la discussion peut-être tout à l'heure si vous êtes d'accord avec ces éléments de définition que je propose. La première chose à mettre en évidence parmi les traits caractéristiques de cette notion de compétence telle qu'elle est utilisée par ceux qui préconisent cette approche. Le premier aspect, donc, c'est l'accent mis sur les savoir-faire plutôt que sur les connaissances. Autrement dit, sur la capacité d'un individu à accomplir une tâche, à faire la preuve de son savoir-faire dans la pratique, par le résultat de son action en situation. C'est d'abord donc ce qu'on pourrait appeler l'opérationnalité ou le caractère opératoire qui me semble définir la compétence. Mais ça suppose que le contexte, la situation dans laquelle ce savoir-faire sera mis en œuvre, soit précisément défini. Qu'il s'agit d'une situation professionnelle dont les caractéristiques, les exigences, les contraintes sont précisées et l'ensemble des tâches listées ou d'exercices de tâches scolaires. On peut résumer cette deuxième caractéristique sous le terme de contextualité. En conséquence, on peut aussi ajouter qu'une compétence ne décrit pas ce qui est parfois affirmer une caractéristique d'un individu, mais décrit plutôt la relation entre un sujet et une catégorie de tâches. On n'est pas compétent ou incompétent en général, on est compétent ou incompétent par rapport à une activité ou une tâche précise. Alors il faut toutefois mentionner quelques travaux qui contestent l'idée que toute compétence est spécifique et qui mettent en avant l'existence de compétences qualifiées de génériques ou de transversales. Ils évoquent par exemple des compétences de raisonnement logique, de résolution de problèmes ou les compétences de communication, de coopération avec autrui. Pour ma part, je considère qu'il est préférable d'utiliser le terme de capacité transversale et de limiter l'usage du terme de compétence à la désignation de savoir-faire opérationnel et contextualisé, c'est-à-dire spécifique à une situation ou à une classe de situations ou de problèmes à résoudre. C'est aussi ce qui différencie les connaissances telles qu'elles sont les compétences par rapport aux connaissances telles qu'elles sont enseignées dans un cadre scolaire. Celles-ci sont organisées par discipline académique, par domaine du savoir, et non en fonction de domaines d'activité concrètes. Elles sont plutôt abstraites, théoriques, décontextualisées, par opposition donc aux compétences. Un autre aspect à retenir, c'est le caractère global ou composite des compétences, c'est-à-dire qu'elles combinent et elles intègrent différentes ressources cognitives, mais aussi des ressources que certains appellent socio-affectives, des attitudes, et parfois aussi des habiletés gestuelles ou perceptivo-gestuelles, c'est-à-dire la combinaison de perception et de gestes. Un autre aspect, alors une compétence, c'est donc la capacité à mobiliser un ensemble de ressources, savoir, savoir-faire, attitude, habileté, permettant au sujet de faire face à une catégorie de situations ou d'activités définies, qui peuvent être complexes, qui forment un tout significatif et ne se limitent donc pas à des opérations élémentaires. C'est sur ce point notamment que cette proposition de définition se distingue de la conception behavioriste et taylorienne que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, dernier aspect, une compétence ne peut être considérée comme acquise que si elle est reconnue, si elle est validée. En effet, il ne suffit pas de s'auto-proclamer compétent, il faut que cette compétence soit reconnue par un collectif, par une autorité ou par une instance habilitée à le faire. Alors j'ai trouvé dans des travaux d'une commission de l'AFNOR une définition qui me semble correspondre assez à ce que je viens de dire, c'est-à-dire une compétence précise individuelle et la capacité éprouvée à mettre en œuvre des connaissances, savoir-faire et comportements en situation d'action dans un contexte donné. On retrouve donc les principaux attributs que j'ai évoqués de la notion de compétence. L'opérationnalité, mettre en œuvre en situation d'action, la contextualité dans un contexte donné, le caractère composite, donc des connaissances, savoir-faire, comportement, on peut discuter sur le terme de comportement, et enfin la nécessité d'en avoir fait la preuve, donc compétence est une capacité éprouvée. Alors je remarque que l'AFNOR précise compétences individuelles, ce qui laisse la place à d'éventuelles compétences qui seraient collectives ou résultant de la collaboration de plusieurs personnes. En effet, la capacité à mobiliser les ressources d'autrui, on peut considérer que cela fait partie de la capacité à agir efficacement en situation. On peut aussi ajouter qu'il existe des ressources externes, des outils, des instruments, des supports matériels ou immatériels dont l'usage peut constituer une composante de certaines compétences. Une distinction qui est aussi souvent mentionnée, c'est la distinction qui oppose les compétences aux qualifications. Ces dernières, les qualifications, sont souvent liées à des diplômes, sont socialement ou conventionnellement reconnues et validées, et sont acquises une fois pour toutes. Alors que les compétences sont propres à un individu, à une situation ou une classe de situation particulière, qu'elles ne sont généralement pas reconnues par des accords collectifs ni définitivement acquises, on peut ajouter, du moins dans le monde du travail, qu'il faut sans cesse faire la preuve de ces compétences, continuer à la développer pour s'adapter aux évolutions des situations, des contextes et des techniques. Cette opposition donc entre compétences et qualifications a souvent fait l'objet de discussions dans la mesure où elle soulève un certain nombre d'enjeux sociaux, voire politiques et idéologiques. Le modèle de la compétence dans les entreprises est en effet associé à un modèle de management néolibéral qui inclut l'individualisation du rapport salarial, la flexibilité, la responsabilisation des travailleurs concernant leur employabilité et l'injonction à la formation tout au long de la vie, aussi désignée développement des compétences ou développement professionnel continu. Donc tout ça, c'est quand même un ensemble qui est cohérent, du moins dans la façon dont l'approche par les compétences est utilisée, en particulier dans le monde du travail. Ça explique aussi certaines des critiques formulées à l'encontre de l'approche par les compétences. Par exemple, dans un numéro de la revue française de pédagogie de 2006, Marcel Frahet affirme qu'elle constitue, je cite, « une contamination de la réflexion pédagogique par une idéologie à dominante utilitariste provenant du monde de l'entreprise et qu'elle renforce la rationalité instrumentale ». Il formule également, à côté de cette critique qui est plutôt, je vais dire, idéologique, une critique épistémologique lorsqu'il écrit, je cite, « La notion de compétence n'est selon nous pas étayée par une théorie scientifiquement fondée. » Et il remarque que, souvent, divers courants de la psychologie cognitive sont convoqués par ceux qui contribuent à diffuser cette notion sans qu'ils soient intégrés de façon cohérente, voire compatible entre eux. C'est d'ailleurs une critique qui avait déjà été formulée à propos de la pédagogie par objectif plus de 20 ans plus tôt par Giry Postard dans un ouvrage de 82 sur la définition des objectifs pédagogiques. Et il est vrai qu'au cours des années 2000, on a assisté à des tentatives de resituer l'approche par les compétences dans une conception qui se prétendait constructiviste. Et là, on peut citer une autre phrase, une phrase de Giry Postard qui me semble toujours d'actualité. Il écrit « Ainsi a-t-on cru en finir avec le béhaviorisme alors qu'il subsistait à travers des techniques de construction de programmes que l'on croyait neutres ?» Donc, est-ce que ces techniques de construction de programmes qui partent de ces référentiels d'activité, ces référentiels de compétences, peuvent être considérées comme neutres et peuvent être utilisées dans n'importe quelle conception de la pédagogie et de l'apprentissage? Moi, j'aurais plutôt tendance à faire l'hypothèse que l'on rencontre aujourd'hui avec l'approche par les compétences le même type de difficultés qui sont évoquées aussi bien par Crahé que par Postard, lorsqu'on considère que la méthode et les outils utilisés pour la mettre en œuvre seraient neutres et pourraient servir à n'importe quelle conception de la pédagogie. Alors, c'est ce que j'ai essayé de montrer en étudiant plusieurs dispositifs de formation. J'ai surtout regardé ces dernières années les réformes des dispositifs de formation dans le secteur de la santé et du travail social, mais aussi d'autres dans le domaine de l'éducation et de la formation. Je vais en présenter quelques-unes. Je précise que la méthode que j'ai utilisée est essentiellement une étude documentaire. Donc j'ai analysé les référentiels d'activité ou de métier, les référentiels de compétences, les programmes de formation, les grilles d'évaluation qui sont utilisés dans ces dispositifs, avec une méthode d'analyse qui portait aussi bien sur le contenu explicite, c'est-à-dire la terminologie, le type d'expression ou de notion qui sont utilisés, que sur des présupposés implicites qu'ils contiennent. Elle consistait à évaluer dans quelle mesure les documents étudiés comportent un ensemble de caractéristiques permettant de considérer qu'ils relèvent d'une approche de la formation encore largement influencée par le behaviorisme, ou s'ils s'en démarquent nettement, ou encore s'ils mêlent des caractéristiques qui évoquent divers paradigmes pas forcément compatibles entre eux, ce que Boutin, dans un article de 2004, appelle un amalgame paradigmatique. Barbare, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Alors, quels étaient les principaux indicateurs retenus dans cette étude documentaire? Premièrement, le degré de décomposition de l'activité en tâches et en opérations. Ensuite, la présence ou l'absence de distinction entre les compétences d'une part et les activités ou les performances d'autre part. Et la formulation des compétences, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont formulées en termes de comportement observable du type de ceux préconisés par la pédagogie par objectif ou par la psychologie de l'apprentissage béhavioriste, qui se traduit donc après par de longues listes de verbes d'action à l'infinitif, ou est-ce que cette formulation évoque plutôt un système de connaissances conceptuelles et procédurales organisées, susceptibles d'être mobilisées en action efficace face à une famille de situations? C'est une définition que propose Pierre Gillet et qui lui semble caractériser une approche constructiviste, donc ensemble un système de connaissances conceptuelles et procédurales susceptibles d'être mobilisées en action efficace face à une famille de situations. L'analyse documentaire a été complétée par des entretiens semi-directifs auprès de formateurs utilisant ces dispositifs pour voir un peu quel était leur point de vue sur le type d'outils qui leur était, j'allais dire proposé, mais en fait, il faudrait dire imposé. Alors j'ai commencé par m'intéresser aux formations du secteur paramédical qui ont toutes progressivement, à partir du milieu des années 2000, été réformées, que ce soit la formation des aides-soignants, des auxiliaires de périculture, des infirmières, et plus récemment, en 2015, des masseurs kinésithérapeutes. Je présenterai de façon un peu succincte, parce que je vois que l'heure tourne, quelques résultats. Je vais passer sur le diplôme d'auxiliaire de périculture et aller directement sur le dispositif de formation des infirmiers de 2009. Les documents de référence pour la formation des infirmiers, donc suite à la réforme de 2009, comprennent une définition du métier et du champ d'intervention de cette profession, un référentiel d'activité qui est très détaillé, plus de 200 activités sont listées, et un référentiel de compétences avec un ensemble de documents qui constituent le programme de formation, plus une série d'outils pour évaluer l'acquisition de ces compétences. Le référentiel compétences définit 10 compétences principales, qui, de mon point de vue, sont plutôt des fonctions que des compétences au sens du terme, et au total décliné en 77 compétences élémentaires, commençant par un verbe à l'infinitif et décrivant en fait plutôt des activités, de mon point de vue, que réellement des compétences selon la définition que je viens de proposer. Il n'y a donc pas dans ce document de distinction claire entre activités et compétences. Par exemple, la compétence 4, mettre en œuvre des actions à visée diagnostique thérapeutique, est déclinée en plusieurs éléments, dont celui-ci, conduire une relation d'aide thérapeutique. Mais rien n'est dit sur ce qui constitue la compétence permettant de conduire cette relation d'aide. Quelle attitude faut-il adopter ? Guidé par quelles règles déontologiques ou éthiques ? Quelles connaissances de la maladie et de la thérapeutique faut-il avoir pour pouvoir conduire une relation d'aide thérapeutique ? Ça, c'est pas mentionné. Donc, de mon point de vue, c'est plutôt une activité qui est décrite, conduire une relation, que ce qui en constitue la compétence. En plus de ce référentiel de compétences, l'autre document de référence est ce qui est appelé un portfolio, qui est destiné aux étudiants et aux professionnels qui accueillent les étudiants dans les terrains de stage. Il contient une série de tableaux destinés à suivre la progression de la formation et l'évaluation des différentes périodes de stage. Les deux tiers de ce document sont constitués par des grilles servant aux étudiants et à ceux qui les encadrent à évaluer l'acquisition des différentes compétences listées dans le référentiel. Pour chacune des 10 compétences principales, une série de critères sont définis, au total 40 critères différents. Et pour chaque critère, plusieurs indicateurs, 120 indicateurs en tout, sont censés permettre de juger si, selon ce critère, la compétence est acquise, à améliorer, non acquise ou non pratiquée. Il y a dans le portfolio une case à cocher, il faut mettre des croix dans les cases, pour chaque critère et pour chaque stage effectué. Lorsqu'on parle avec les utilisateurs de ce portfolio, ils parlent d'usine à gaz, ils se plaignent de la lourdeur de cet outil qui leur prend beaucoup de temps. De plus, ils ont l'impression que ce découpage très analytique passe à côté de l'essentiel, en accordant par exemple une place très limitée aux dimensions relationnelles du métier, parce que l'on nomme parfois le care dans le travail infirmier. Dans la formulation des indicateurs, qui sont supposés permettre d'évaluer la performance, donc les activités des étudiants en stage, on retrouve souvent des termes très proches de ceux utilisés pour décrire les éléments de compétence dans le référentiel. La seule différence, c'est qu'ils sont formulés avec des verbes au présent de l'indicatif au lieu d'être formulés par des infinitifs. Donc je passe sur les exemples. Là aussi, il me semble que l'analyse du référentiel de compétences, du portfolio, du vocabulaire utilisé, montre un découpage très fin des activités et des compétences, une absence de distinction claire entre performance et compétence, des formulations qui ne font aucune mention des systèmes de connaissances déclaratives et procédurales, ce que certains appellent dans le cadre de la psychologie de l'apprentissage piagétienne, des schèmes et des concepts qui organisent l'action, tels que ceux qui sont décrits donc par ces théories constructivistes de l'apprentissage. Toutefois, dans l'ouvrage intitulé « Le défi des compétences » qui a été publié en 2009 par les responsables du pilotage de cette réforme de la formation des infirmiers, les auteurs insistent sur des notions comme l'autonomie des apprenants et la réflexivité, ce qui me semble un peu paradoxal au vu du caractère très détaillé et très prescriptif des supports utilisés. On voit mal comment ce type de dispositif peut contribuer à développer l'autonomie des apprenants. Ça reste en tout cas, de mon point de vue, à démontrer. Alors ces caractéristiques, on les retrouve dans la formation des éducateurs spécialisés, par exemple dans le champ du travail social. Je ne parlerai que de celui-là, j'en ai étudié plusieurs, mais on retrouve à peu près les mêmes difficultés. Donc j'ai regardé l'annexe de l'arrêté de 2007 qui est intitulé « Référentiel professionnel ». Il comprend d'une part un référentiel des fonctions et activités, qui décrit 4 fonctions principales, déclinées chacune en 3 à 5 activités, donc 16 activités en tout. Donc vous voyez que là, on n'est pas dans les 200 activités comme dans le référentiel des infirmières, mais simplement un nombre beaucoup plus limité. L'intitulé des fonctions est formulé par une expression commençant par un substantif, par exemple « accompagnement éducatif de la personne ou du groupe » ou « conception et conduite d'une action socio-éducative au sein d'une équipe ». Les activités, ensuite, sont définies par des expressions commençant par un verbe présent dans l'indicatif, à la troisième personne du singulier. Par exemple, il établit une relation éducative avec la personne et la famille ou le groupe. Donc on remarquera d'une part que la liste des activités est assez courte, qu'il s'agit d'activités assez largement définies, leur énoncé est généralement plus développé que ceux relevés dans les dispositifs du secteur de la santé. Certaines d'entre elles font explicitement référence à des concepts issus des sciences humaines, comme par exemple l'exercice d'une fonction symbolique, ou aussi à des valeurs, par exemple vis-à-vis de la personne accompagnée, le respect le plus large possible de ses choix et de son intimité. Donc la formulation de ces activités donne l'impression d'une conception à la fois synthétique et compréhensible du métier d'éducateur. Elle en exprime le sens et la finalité, loin de se limiter à décrire de l'extérieur une série de tâches. Après, on retrouve un référentiel de compétences, 19 compétences en tout. L'intitulé de ces compétences est assez laconique. Par exemple, instaurer une relation ou concevoir un projet éducatif. Puis, il y a un tableau qui liste pour chaque compétence une série d'indicateurs qui sont formulés avec le verbe savoir suivi d'un autre infinitif. Au total, il y a 80 indicateurs. Donc là, on retrouve un peu ce qui me semble être une dérive, alors que du côté de la description des activités, ça me semblait beaucoup plus intéressant. Du côté de la liste des compétences, on retrouve des indicateurs de compétences. On retrouve un peu un des problèmes que j'avais constaté déjà pour les dispositifs de formation du secteur de la santé. Bon, parfois, en particulier, la distinction entre activité et compétence est loin d'être claire. La formulation de la compétence ne se distingue de celle de l'activité que par l'infinitif ou l'utilisation d'un synonyme. Par exemple, à l'activité « évalue les actions menées dans le cadre du projet éducatif » correspond à la compétence « évaluer le projet éducatif » et l'indicateur de compétence « savoir faire le bilan des actions menées et des objectifs atteints ». Donc on voit bien là, dans cet exemple, que la distinction entre activité, compétence et indicateur est purement formelle. C'est de la paraphrase. Il n'y a pas une conception claire de ce que serait une compétence par opposition à une activité, ou ce que pourrait être un indicateur de compétence par rapport à une compétence elle-même. Dans une version précédente, et ça je trouve que c'est un peu dommage, le référentiel de compétences était présenté de façon différente, sous la forme d'un tableau avec trois colonnes. Dans la première, sous l'intitulé « Type de situation », on retrouvait les 16 activités du référentiel, du référentiel « Fonction et activité ». Dans la seconde colonne, intitulée « Savoir-faire », des phrases au présent de l'indicatif décrivaient de façon plus développée les activités de l'éducateur. Et enfin, dans la troisième colonne, intitulée « Savoir de référence », il y avait, en face de chaque situation et de chaque savoir-faire, une liste de connaissances théoriques, méthodologiques et techniques à mobiliser pour y être efficace. Je prends un exemple. Il recourt à des techniques de pédagogie active et d'animation des groupes. Sensibilisé à une approche clinique, il se réfère à ses connaissances en psychologie, pédagogie, dynamique de groupe. Donc vous voyez que là, on se rapproche d'une définition de la compétence qui me semble plus intéressante. Les savoirs de référence sont présentés aussi dans ce tableau de façon active, tels qu'ils doivent être mobilisés dans l'action, et non sous la forme d'une simple liste de connaissances, donc, qui ressemblerait à des programmes d'enseignement avec une série de contenus tels que on les connaît dans la formation initiale. La forme et le contenu de ce référentiel est donc cohérent avec la définition des compétences inspirées du constructivisme et celle de Gillet que je citais tout à l'heure. L'arrêté de 2007, malheureusement de mon point de vue, revient aux notions de compétences et d'indicateurs de compétences. Ces derniers sont nombreux et formulés avec des expressions qui se rapprochent des formulations d'objectifs opératoires telles que préconisées par la pédagogie par objectif. Alors, quelles leçons on peut tirer pour terminer de l'examen de ces dispositifs? D'abord, il me semble que cette approche dite par les compétences, qui peut sembler à un regard superficiel, plus simple, plus rigoureuse, plus objective, notamment pour l'évaluation des compétences acquises, mais il me semble que les professionnels interrogés en soulignent la lourdeur de son utilisation, qui peut les conduire, et il n'hésite pas à l'avouer d'ailleurs, à s'en servir de manière peu systématique ou simplement à l'ignorer. Donc on perd dans la pratique ce qu'on pensait gagner en rigueur et en précision sur le papier. Du côté de ce qui me semble poser problème, j'ajouterai que les référentiels d'activité risquent de sous-estimer la différence entre ce que les ergonomes appellent la tâche, c'est-à-dire le travail prescrit, et ce qu'ils appellent l'activité, c'est-à-dire le travail réel. Alors, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais s'il y a des questions, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'on peut simplement retenir, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de construire des listes des référentiels métiers, des référentiels d'activité qui prennent en compte le travail réel, c'est-à-dire ce que font réellement les gens et le type de connaissances, de concepts, de schèmes qu'ils mobilisent pour pouvoir réaliser leur activité. De même, la différence entre indicateur de performance, donc l'observable et ce qui constitue réellement la compétence, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre de façon coordonnée un ensemble de ressources, schèmes, concepts, habiletés gestuelles, attitudes, pour résoudre des problèmes et faire face à des situations, doit être rappelée, ne doit pas être oubliée sous prétexte de travailler par une approche par les compétences. La volonté de simplifier en découpant, en multipliant les critères et les indicateurs risque de perdre de vue les dimensions complexes de l'activité, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une activité de relations humaines, ou même son sens pour les acteurs. C'est du moins ce qui ressort des entretiens que j'ai menés avec un certain nombre de formateurs dans ces domaines. C'est un des risques de cette approche, cette approche pédagogique par les compétences, qui est signalé aussi par des auteurs, hein, je ne suis pas le seul à avoir ce point de vue, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Alors certains dispositifs essaient de résoudre ce problème en ajoutant aux unités d'enseignement organisées par domaine de compétences des unités d'intégration. J'aurais tendance à dire qu'on commence par désintégrer pour ensuite essayer de réintégrer ce qu'on a perdu en route, sans forcément y parvenir. Dernier aspect de ce que je souhaitais vous dire, un regard un peu sur ce qui se passe à l'université. Alors, je vais aller peut-être un peu vite, on y reviendra peut-être dans la discussion. J'ai regardé quelques référentiels, quelques listes de compétences qu'on trouve dans les maquettes de certains diplômes universitaires, en particulier de master. Alors je vais donner un exemple qui peut paraître caricatural, mais qui me semble assez significatif de l'état dans ce domaine. Je fais aussi une autocritique, hein, puisqu'il s'agit d'un master de sciences de l'éducation, qui vise à former des responsables de formation, ou des conseillers en formation, ou encore des chargés d'études ou des chercheurs dans le domaine de l'éducation et de la formation. Je cite, il y a une liste qui s'intitule savoir-faire et compétences, de 8, hein, c'est assez succinct, 8 savoir-faire et compétences, qui semble ressembler à un référentiel de compétences. J'en cite 4. Analyser des besoins en formation. Analyser, concevoir et mettre en œuvre des situations d'éducation et de formation. Maîtriser l'anglais. Développer une excellente maîtrise de l'écriture, entre parenthèses, rédaction d'un mémoire professionnel ou de recherche. Alors, les deux premières compétences, entre guillemets, décrivent des fonctions ou des activités que peut avoir réalisé un responsable de formation ou un formateur. Mais il n'indique pas quelles compétences il doit mobiliser pour les réaliser, c'est-à-dire quelles capacités cognitives, quelles notions, concepts, quelles méthodes ou procédures utiliser pour le faire. Par exemple, pour l'analyse des besoins, la distinction qu'on fait généralement entre la commande de la hiérarchie ou de la direction d'entreprise, la demande des personnes intéressées et leur déficit en compétences qui peut être différente de ce qu'ils formulent comme demande. Ou encore, avec quelle méthode le recueil des demandes peut être réalisé. Par exemple, des méthodes d'entretien, des questionnaires, etc. Alors, c'est sans doute précisé ailleurs dans le programme des unités d'enseignement, mais on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un référentiel de compétences. Les deux dernières compétences que j'ai mentionnées, hein, maîtriser l'anglais, développer une excellente maîtrise de l'écriture, etc., donc sont des compétences langagières. Alors, plutôt que maîtriser l'anglais, hein, je sais bien que l'anglais, il ne se laisse pas facilement maîtriser comme ça, il se défend parfois. Non, plaisanterie à part, il faudrait préciser dans quel type de situation et à quel type de niveau de maîtrise du langage il s'agit de parvenir. Par exemple, s'agit-il d'un anglais spécialisé ou de celui de la conversation courante? S'agit-il de la capacité à lire un article dans une revue professionnelle ou une revue scientifique en anglais? Et dans ce dernier cas, quelle serait la liste des termes ou des concepts clés qu'il faudrait connaître pour être capable de comprendre ce qu'il y a dans ce document? Alors le même type de question peut se poser pour la maîtrise de la langue française à l'écrit, sans compter que la rédaction d'un mémoire exige d'autres compétences que purement linguistiques. Alors vous voyez que ce type d'ébauche de référentiel, simple liste qui évoque des savoir-faire ou des compétences, ne me semble d'aucune utilité. C'est seulement une façon de répondre à minima à l'injonction de mentionner dans les maquettes des diplômes, notamment des diplômes professionnels, un référentiel de compétences, et pas seulement un programme d'enseignement. Alors pour conclure, un dernier exemple moins caricatural qui montre qu'un usage plus sérieux peut être fait des référentiels de compétences. J'ai regardé le référentiel de compétences que vous connaissez peut-être des métiers du professorat et de l'éducation, qu'on trouve dans l'arrêté de juillet 2013 sur la formation des maîtres. On trouve la formulation suivante, c'est la compétence 8. Utiliser une langue vivante étrangère dans des situations existées par son métier, et il est précisé immédiatement, maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Alors même s'il reste à préciser un peu de quelle situation exigée par le métier il s'agit, on pourrait développer un peu ça, il y a mention d'une activité, utiliser une langue vivante étrangère dans le cadre de son travail, et aussi d'un référentiel européen, avec un niveau de performance, j'ai regardé ce que c'était ce référentiel européen, certains d'entre vous le connaissent peut-être, il y a 6 niveaux différents de maîtrise, A1, A2, B1, B2, etc., avec des descriptions précises à quoi correspondent ces niveaux de maîtrise. Alors j'ai beaucoup insisté sur les risques et les limites de cette approche par les compétences, notamment dans les dispositifs de formation professionnelle. Est-ce à dire qu'il n'y a rien à retenir de cette approche et de certains outils qu'elle utilise pour les référentiels d'activité ou de compétences? Je considère pour ma part évident, mais on pourra en discuter, qu'il est nécessaire, lorsqu'on conçoit un programme de formation, notamment pour les diplômes professionnels, de s'interroger sur les activités que les étudiants auront réalisées dans leur profession, et d'essayer donc de faire une liste de ces activités. Ensuite, si on veut éviter les conséquences de certaines limites que j'ai évoquées à propos de l'approche par les compétences, telle qu'elle est utilisée dans de nombreux dispositifs, il me semble qu'il faut prendre ses distances avec le behaviorisme, avec sa conception réductrice du travail, qui se limite à faire une liste d'opérations sans se pencher sur ce qui explique l'activité, sur ce qui explique la performance, et donc ce qui constitue véritablement la compétence. Un dernier mot peut-être pour dire que c'est, à mon avis, la condition pour parvenir à étayer les méthodes de conception de dispositifs de formation ou de programmes d'enseignement sur des fondements théoriques un peu plus solides que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure à propos de l'origine de cette approche, notamment en s'appuyant sur la théorie de l'apprentissage issue des travaux de Piaget, complétée par ceux de Gérard Vergniaud, et aussi par les travaux d'un courant qui s'appelle la didactique professionnelle, que certains d'entre vous connaissent, et qui est issu notamment des travaux de Pierre Pastré. Je m'en tiens là, j'ai peut-être un tout petit peu débordé sur le temps qui m'était accordé, mais pas beaucoup je crois. Et donc, on peut ouvrir la discussion, l'échange de remarques, de questions, éventuellement de réactions critiques à ce que j'ai pu affirmer, puisque je ne prétends pas avoir une vérité absolue sur ces questions.